Bonjour à chacune, à chacun. On est dimanche 23 avril, c'est ça? Et ce sont les élections présidentielles. Premier tour des élections présidentielles. Alors, ça m'a fait réfléchir tout ça. Réfléchir au fait que la Bible nous dit que nous sommes ministres de Christ. Là, on va changer de chef de gouvernement, certainement changer de ministre, et certainement changer de feuille de route, n'est-ce pas? Probablement. Et ça m'amène à lire en hébreu avec vous un texte qui nous présente justement un changement de feuille de route de la part de Dieu. Et c'est pour ça que dans la Bible d'ailleurs, nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, avec une nouvelle feuille de route. En hébreu, au chapitre 8, à propos de Jésus-Christ, il y a une sorte de résumé, de point d'orgue ici qui dit le point capital de ce qui vient d'être dit. Donc c'est tout ce qui précède. Il dit le point capital, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Et au verset 6, toujours en parlant de Christ, il dit « Maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. » Alors quand on va voter pour un programme en espérant voter pour des meilleures promesses, pour quelque chose de plus excellent, pour une alliance, une feuille de route plus ajustée, plus pertinente, avec quelqu'un qui en sera le médiateur, l'exécuteur. Le gouvernement, c'est le pouvoir exécutif. Et en se disant, j'espère que cette personne-là sera à même, non seulement d'avoir une bonne feuille de route, mais de la suivre et de la faire suivre. Eh bien, nous avons ici ce verset qui nous parle du trône de Dieu. Dieu, c'est le roi, c'est le souverain, il a son trône, et voilà que Jésus-Christ est ce médiateur, comme un peu un premier ministre, qui va être le garant, l'exécuteur de tout un ensemble de choses pour cette nouvelle alliance, pour cette nouvelle feuille de route. Et il est dit de Christ qu'il est devenu ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Cela en opposition un petit peu à l'Ancien Testament avec Moïse, qui portait, qui incarnait la loi dans les rapports de Dieu avec l'humanité. Et voilà qu'un virage a été pris, une alliance meilleure, et cette alliance meilleure étant Jésus-Christ. Il est ce premier ministre de Dieu. Il est assis près du trône, mais voilà, il a obtenu ce ministère d'autant supérieur. Un nouveau gouvernement, une nouvelle feuille de route que le Nouveau Testament nous explique en détail. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est de nous rendre compte que ceux qui croient en Jésus et qui vont le suivre deviennent ministres d'une nouvelle alliance. On a un chef de gouvernement, on a un premier ministre, et puis on va avoir des ministres. Regardez en 2 Corinthiens, au chapitre 3, verset 6. Paul dit de Dieu, hein, en disant notre capacité vient de Dieu, il dit il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Et tout le chapitre 3 parle un petit peu de cela, hein, de cette nouvelle alliance. Et nous a rendu capables d'être ministres de cette nouvelle alliance. Ceux qui choisissent de croire en Jésus, il y en a qui sont dit, tiens, ben moi je me rallie à Emmanuel Macron, moi je me rallie à un tel, et puis moi finalement je vais donner mon soutien à Fillon, à... Il y en a 11, alors on peut... Je lisais encore ce matin sur le Parti communiste, alors là c'était pour Mélenchon, tout ça, voilà. Eh bien, lorsque je choisis de suivre Jésus-Christ, de croire en lui, je crois en lui, dans ce qu'il est, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il propose, je vais le suivre et il va m'emmener dans son ministère. Il est le ministre d'une nouvelle alliance. Il va dire, viens, maintenant tu es dans mon équipe et je vais te rendre capable d'être ministre de cette nouvelle alliance. Et dans l'Église, chacun est invité d'une manière ou d'une autre à rentrer dans ce ministère de la nouvelle alliance. Personne n'est destiné dans l'Église à être inactif. Mais tous nous sommes engagés, sommes invités à nous engager dans la feuille de route que Dieu nous donne. Nous le trouvons en Éphésiens 4. Avec ce rôle propulseur des ministères dans l'Église, en Éphésiens 4, au verset 11 et 12, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. On s'arrête là. C'est souvent quelque chose qu'on met de côté. Mais c'est en vue de l'œuvre du ministère. Se perfectionner. Et voilà que l'Église est ce terreau où on va se former, où on va grandir, où on va s'édifier. Parce que le but... c'est pour le perfectionnement des saints en vue de quoi ? De l'œuvre du ministère, le ministère de la nouvelle alliance. Alors, le Seigneur nous dit, il n'y a personne qui doit être inactif dans ce ministère de la nouvelle alliance. Tous ceux qui viennent à moi, qui placent leur confiance en moi, qui sont passés par la nouvelle naissance pour que je dirige leur vie, eh bien vous êtes engagés dans la nouvelle alliance, en vue de l'œuvre du ministère. Et Dieu nous dit, mais c'est moi qui donne la feuille de route. Regardez maintenant en 1 Corinthiens 12, parce qu'on pourrait se dire, tiens, moi je vais mettre mon petit grain de sel, moi ma manière de diriger, moi ma manière de faire, ça serait ceci, ça serait cela. Moi j'ai une bonne idée là, tiens. On va faire comme ça, puis on va mettre ceci, on va mettre cela. Mais dans un gouvernement, c'est pas comme ça que ça marche. Là, nous allons élire un nouveau président d'ici 15 jours. Il aura sa feuille de route, il nous l'a présentée, c'est son programme. Et il va choisir ses ministres, non pas pour que les ministres fassent à leur fantaisie, mais les ministres vont devoir mettre en exécution la feuille de route du chef du gouvernement. Après, il y en a qui le font plus ou moins, etc. Après, on en vire certains. Mais c'est pas chacun qui va venir avec ses idées complètement indépendantes de celui pour qui le peuple a voté en disant ben moi je vote pour son programme et je souhaite qu'il soit mis en œuvre. Alors regardez en 1 Corinthiens 12 au verset 4. Et 5, il est dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Oui. Est-ce que tout le monde a les mêmes capacités, les mêmes talents? Non, il y en a qui sont plutôt tournés dans les ministres. Ils sont plus, leur truc, c'est plutôt l'économie, d'autres, ça va être plutôt la santé, d'autres, ça va être plutôt chacun des dons, mais le même esprit. Mais le même esprit. Et dans un gouvernement, s'il n'y a pas le même esprit, il y a un problème. Alors le gouvernement, il ne va pas dans le même sens. Il y en a un qui tire à gauche, l'autre qui tire à droite, l'autre qui tire en arrière, l'autre qui tire en avant. Le gouvernement, si les ministres ne sont pas liés par le même esprit, le chef du gouvernement a des soucis à se faire. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et là, ça nous dit que le chrétien, lorsqu'il est ministre d'une nouvelle alliance, il va œuvrer, mais en suivant, pas sa propre feuille de route, qu'il va se décider lui-même, mais en suivant la feuille de route de qui ? De Dieu. De Christ. Qui nous est donné dans la parole. Et pour être un bon ministre, nous l'avons lu la semaine dernière en 1 Timothée. 1 Timothée 4. Revenons à Timothée. 1 Timothée 4, verset 6. Parce qu'on va dire, tiens, c'est quoi un bon ministre ? Est-ce que c'est celui qui fait ce qu'il veut comme il veut ? En tout cas, pas aux yeux de celui qu'il a nommé. En 1 Timothée, chapitre 4, verset 6, Paul dit à Timothée, « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. » On relève trois choses pour être un bon ministre de Jésus-Christ. D'abord, être nourri de la bonne doctrine, de la bonne parole de la foi. Il faut connaître. Un ministre qui ignore totalement la feuille de route de son premier ministre ou du président, il risque pas de faire un bon ministère. Mais il faut aussi le suivre, que tu as exactement suivi. Il ne s'agit pas de connaître, il faut le vivre. Ça serait quand même assez bizarre si, par exemple, au ministère de l'écologie, le président dise « ben voilà, nous, on veut moins de pollution, etc. » Et le ministre dit « ouais, moins de pollution, tout ça. » Et puis pour, je sais pas, il roule avec un gros 4x4 qui consomme du 15 litres au 100. Il se déplace en avion personnel plutôt que de prendre le train. Ça avait été des questions il y a quelque temps, vous vous souvenez ? En disant, tiens, mais est-ce que c'est ça l'écologie ? Il est ministre de l'écologie, mais alors c'est incroyable comme il fait le contraire de son ministère. Hein ? Il faut être conséquent. Et là, le bon ministre de Christ, c'est celui qui, d'abord, a la feuille de route, connaît la feuille de route, approuve la feuille de route et le met en œuvre dans sa vie. C'est comme si nous avons un ministre qui lutte contre la fraude, la répression fiscale et puis qui truande. On se dirait... Et ça ne s'arrête pas là. Il s'agit ensuite de l'exposer. Connaître, le vivre pour soi-même et en parler aux autres. Être un bon ministre de Jésus-Christ, c'est vraiment connaître la feuille de route de Christ. Connaître la parole, sonder la parole, vraiment dire, Seigneur, tout ce que tu m'as ouvert comme horizon, c'est quoi? Je veux le connaître. Je veux ta feuille de route. Et lorsqu'on a cette feuille de route, ben, je vais la mettre en œuvre dans ma vie. Oh, ça va faire du ménage parfois, ça va changer nos habitudes. Un virage écologique, ça change des habitudes, un virage spirituel également. Et puis ensuite, on va en parler, on va l'exposer, on va promouvoir. Et en faisant cela, on est un bon ministre. Alors, bien sûr, il y a différents ministères. Romains 12 développe différents ministères exercés dans l'Église. Vous pourrez y faire un petit tour. Tout à l'heure, en 1 Timothée 5, nous avons vu, à propos de la femme veuve âgée, d'autres caractéristiques d'un ministère. Exercer l'hospitalité, secourir les malheureux, laver les pieds des saints, élever des enfants, etc. D'autres caractéristiques d'un ministère. Alors, c'est quoi un ministère ? On va élire un président, il a une feuille de route, il va avoir quelqu'un à ses côtés, le premier ministre, pour mettre en œuvre cette politique, mais c'est tellement vaste. C'est tellement vaste. Il y a tellement de domaines, et ici, puis encore là, et puis encore là. Il faut penser à l'économie, il faut penser à la santé, il faut penser à l'armée, il faut penser aux écoles, il faut penser... Eh bien, on a besoin de ministres. C'est-à-dire de personnes qui vont être chargées de mettre en œuvre la feuille de route dans un domaine précis. Alors, j'en profite. Dans l'actuel gouvernement, nous avons 17 ministères. Dans ce gouvernement de la République française et plusieurs peuvent vraiment nous faire réfléchir au ministère que Dieu nous demande d'exercer dans notre vie en tant que ministre de Jésus-Christ. Vous avez par exemple le ministère des Affaires étrangères et du Développement international. C'est intéressant. Ministère des Affaires étrangères. Le rapport au monde. Ça nous fait penser à quoi ? À l'évangélisation. Ministre d'une nouvelle alliance envers ceux qui sont étrangers de Dieu. La Bible dit que tant que nous ne sommes pas réconciliés avec Jésus-Christ, nous sommes ennemis et étrangers de Dieu. Nous ne sommes pas du monde. Alors, ce rapport avec l'étranger, les affaires étrangères, nous fait penser à l'évangélisation. Et le terme du développement international, de la France à l'étranger, son développement, nous fait penser à la mission, aux missionnaires. Le développement international, oui. Aller prêcher la parole et l'évangile là où il n'a pas encore raisonné, là où il a besoin d'être soutenu. Voilà un rôle pour nous. L'évangélisation, la mission. La mission peut être soi-même missionnaire, on peut soutenir financièrement des missionnaires, que ce soit quelque chose qui tienne à cœur de l'Église. Un autre ministère qui peut nous interpeller, tiens, le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur. Est-ce que dans l'Église, on n'a pas besoin d'être enseigné ? Il n'y a pas des ministères ? Oui. L'enseignement, bien sûr, tel que là, je peux le faire. Mais l'enseignement des enfants. Et puis... Et l'enseignement pour le suivi des baptêmes. Et puis, quantité d'autres choses. Pour pouvoir être des personnes qui sont équipées. On peut même, dans l'Église, développer des ministères proprement d'enseignement, des actions de soutien scolaire pour ceux qui en ont besoin. Il y a des tas de choses à faire dans ce domaine-là. Un autre ministère qui peut nous faire réfléchir, le ministère de l'économie et des finances, tiens. Et ça nous fait penser à la gestion de l'argent que nous avons. Le Seigneur nous dit, écoute, tu as une certaine somme d'argent dont tu es le dépositaire, dont tu es le gestionnaire. Est-ce que tu vas le gérer en tant que ministre de la Nouvelle Alliance? Un ministre, il reçoit une enveloppe. Qu'en fait-il de son enveloppe? Ah ah! Normalement, c'est pour le ministère, tout en se payant, bien sûr. C'est normal qu'il soit payé, et bien payé. Et nous avons d'ailleurs lu tout à l'heure dans Timothée d'estimer digne d'un double honneur ceux qui travaillent à la parole, etc. Donc d'un double salaire. C'est ce soutien à ceux qui prennent du temps dans l'enseignement de la parole, pasteur, etc. Mais on doit se poser la question, est-ce que cette enveloppe du ministre, il l'investit vraiment pour son ministère ou est-ce que il l'investit plus pour lui-même? Et ça, c'était une grande question dans cette campagne. Et nous? Ça doit nous renvoyer à nous, parce que c'est facile de critiquer, mais nous? Le Seigneur nous confie l'argent que nous avons, mais il nous dit, mais sois un bon gestionnaire pour moi. Est-ce que je l'investis pour le Seigneur? Alors on pense bien sûr à la dîme, hein, une appellation issue de l'Ancien Testament, mais voilà, qu'est-ce que je fais de mon argent vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis des actions de l'Église? On le verra tout à l'heure vis-à-vis de la solidarité, hein, ce sont les affaires sociales, etc. Mais est-ce que réellement, en tant que ministre, je vais prendre l'enveloppe budgétaire que Dieu me donne à titre personnel? Bien sûr, je vais en vivre. Mais attention, est-ce que j'en mets pas surtout dans ma poche à moi et j'oublie le ministère? Une bonne gestion de notre argent, pas dépenser à tort, à travers. Mettre Dieu en priorité. Alors bien sûr, il y a aussi des choses très pratiques, comme le fait d'être trésorier dans l'Église. Voilà un ministère de l'économie et des finances dans la vie pratique et concrète tous les jours de l'Église. C'est un ministère. Nous avons le ministère des affaires sociales et de la santé. Les affaires sociales nous fait penser, vraiment, c'est la solidarité. C'est ce souci de celui qui est dans le besoin, de celui qui est dans la pauvreté matérielle. Et le Seigneur nous invite à y prendre part. C'était notre chapitre ici à propos de qui? Quelle catégorie? En Timothée, c'était les veuves. Celles qui sont véritablement veuves. Et on a vu dans le chapitre lu tout à l'heure, 1 Timothée 5, que l'Église avait un registre pour avoir un fonctionnement de soutien financier, matériel pour des personnes âgées qui n'avaient aucune ressource et aucune famille autour d'elle. Mais vous avez vu le soin qu'ils avaient de ne pas se faire non plus escroquer en disant « Oh là, attends, il y en a, il ne faut pas les mettre sur le registre. On va soutenir celles qui sont véritablement, parce qu'il y en a... Non, on va leur dire, non, écoute, il y a d'autres moyens. L'affaire sociale. » Mais le Seigneur nous dit, oui. Si tu vois ton frère dans le besoin, tu lui dis... Eh ben, chauffe-toi, mange bien et tout ça, hein, mais que tu lui donnes rien. Où est l'amour? Qu'est-ce qu'on en fait de cette solidarité? Les affaires sociales, c'est aussi penser aux personnes âgées, aux personnes handicapées. Autant de thèmes de campagne, hein. Mais qu'en fait-on dans l'Église? Quel est le soin que nous portons à nos personnes les plus fragiles, que ce soit par leur âge, que ce soit par un handicap, que ce soit par la pauvreté matérielle? Ah, le ministère de la Santé. Voilà encore autre chose. La santé. Être en bonne santé. Et puis être en bonne santé spirituelle. Alors, vous savez, le ministère de la Santé va faire des campagnes de prévention, etc. Le tabac tue, les marqués sur les paquets. Et puis, l'alcool. Et puis, des tas de choses pour que l'obésité, manger 4-5 fruits et légumes par jour, etc. Voilà, on développe des choses pour une meilleure santé et la santé spirituelle dans l'Église. Est-ce qu'on n'a pas besoin de veiller et puis d'alerter en disant, oh, tu sais là, la santé spirituelle, elle va en prendre un coup si tu te lances là-dedans. Si tu continues ce mode de comportement, de vie, de choix, contraire à la parole. Ta santé spirituelle va en prendre un coup. La santé, c'est aussi la guérison, c'est aussi le soin qu'on va apporter à l'âme. Que de ministère dans l'Église. Parce qu'il y a tant de choses qui vont nous détruire. On peut, par exemple, nous dit Hébreu, garder une racine d'amertume. Et cette racine d'amertume va nous détruire. On peut ne pas pardonner. Ça va nous détruire. Et on peut développer comme ça toutes les choses qui vont nous atteindre tant dans notre santé spirituelle que dans notre santé émotionnelle et y compris notre santé physique, puisque toutes ces choses sont liées. À quoi est-ce qu'on peut penser encore? Tiens, le ministère de la Défense. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Oui, le chrétien est en guerre. En guerre contre le péché, en guerre contre l'ennemi de son âme. Et en guerre contre le terrorisme. Combien de fois dans le Nouveau Testament ne voyons-nous pas d'être vigilants par rapport aux loups ravageurs, par rapport aux faux prophètes, aux faux apôtres? Ah oui, la sécurité intérieure. Nous sommes en combat. Et il y a un vrai ministère à œuvrer, en commençant par nos familles. Qu'est-ce qui va abîmer nos familles? Par quel moyen l'ennemi met un pied terroriste dans mon couple, auprès de mes enfants, pour semer ces graines qui vont troubler et abîmer? Alors oui, autant le ministère de l'Intérieur que le ministère de la Défense sont choses utiles dans notre vie d'un point de vue spirituel. Veillez les uns sur les autres. Combien de fois la parole nous dit de veiller les uns sur les autres? De nous reprendre les uns les autres. Dans le chapitre que nous avons lu, c'était très fort, le fait de se reprendre. Dire les choses. Intervenir. Protéger. Notre police nous protège, n'est-ce pas? Oui. Et dans l'Église, il s'agit de nous veiller les uns sur les autres, de nous protéger. Oh, on pourrait continuer, hein. Nous avons le ministère de la Justice. Grand thème, n'est-ce pas? Ce qui est juste. Des fois, c'est ma femme qui exerce un ministère de justice en disant, Adrien, là, vis-à-vis des enfants, là, c'est pas vraiment juste. Donc, elle dit, voilà, non, là, je crois que c'est pas très juste ta manière de... La décision que tu as prise, c'est pas ce qui est juste selon Dieu. Et oui. Parce que le ministère de la justice est là pour dire ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, pour prévenir, puis sanctionner. Ça nous fait penser à des tas de choses, et y compris dans notre vie de famille ou dans la vie d'église, la discipline familiale, la discipline d'église, sont choses nécessaires. Le ministère du travail et de l'emploi. Ah tiens. Quant à l'activité, pas paresseux, nous dit l'épître aux Romains. Est-ce que il n'y a pas quantité de choses à faire dans l'Église pour œuvrer, pour travailler pour le Seigneur, et puis pour rendre service. Rendre service les uns aux autres. On voit quelqu'un dans l'Église que ça pourrait dépanner d'agir comme ceci ou comme cela. Eh bien, on va aller donner un coup de main. On va suppléer, on va s'investir. Il y a du travail. Il y a de l'emploi. On peut prendre notre place. Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation vous fait penser à le fait de nous nourrir de la bonne parole de Dieu, déjà. Hein? Des repas copieux, soignés, équilibrés. Et ça nous fait penser à tous les ministères d'enseignement aussi. Mais pas que, c'est très concret dans la veuve. Qu'est-ce qu'elle avait fait, la veuve ? Elle avait pratiqué l'hospitalité. Oui, il y a des ministères d'agroalimentaire dans l'Église. Les repas en commun qu'on organise. Le fait de s'inviter les uns les autres, de s'accueillir. Je me souviens, lorsque mon papa est décédé, combien de gens de l'Église nous ont apporté des repas ? Il y a des ministères juste de repas, dans des moments opportuns. Et puis nous dire, attention, il y a une mauvaise alimentation. Attention, alors ça c'est les OGM, et c'est ceci, c'est cela, moi je ne suis pas très calé hein, dessus, mais dire, ouh, en fonction de ce qu'on fait pousser, ça peut devenir une alimentation nocive. De quoi est-ce qu'on se nourrit ? Et être ministre de l'alimentation, de l'agroalimentaire, dans l'Église, c'est aussi veiller à ce dont on se nourrit. Par exemple, dans la famille, de quoi mes enfants sont nourris toute la journée ? Je suis obligé de leur enlever leur téléphone portable, même à l'Église, pour qu'ils ne continuent pas à l'Église de se nourrir d'autre chose que de la parole de Dieu, parce qu'on n'arrive pas à couper. C'est quand même incroyable. Je me nourris de choses, sont-elles vraiment bonnes ? Ça, ce sont les questions que nos ministres, notre ministre de l'agriculture se pose pour une saine alimentation dans notre pays. Dans l'Église, c'est la même chose. Ministre du logement et de l'habitat durable. Bien sûr, le ministre du logement, c'est déjà l'hospitalité. Oui ou non ? Accueillir, être hospitalier. La solidarité, lorsque quelqu'un a besoin d'être hébergé. Mais c'est aussi tout ce qui a trait au bâtiment de l'Église, des ministères de réfection, de travaux, d'entretien, de nettoyage, ouais. Ministère de logement et de l'habitat durable. Le ministère de la culture et de la communication. Oui, il y a des ministères dans l'Église. La musique. Les scénettes, on a vu pour les enfants. Un site internet, voilà un ministère de la communication. Oui, il y a du travail. encore le ministère des familles, le ministère de la jeunesse et des sports. Et on pense par exemple à hier, hein, on a été heureux d'avoir une journée avec les juniors à Tarascon, où sont les ados qui ont été les animateurs. Quantité de choses peuvent être faites. Alors, du travail, il y en a. Il y en a dans un pays, et nos ministres en ont la responsabilité, mais du travail, dans la nouvelle alliance dont Jésus-Christ est le médiateur, il y en a. Et nous sommes tous invités à rentrer dans ce ministère. Alors, des conseils bibliques maintenant pour terminer, pour être un bon ministre de Jésus-Christ. On l'a déjà vu tout à l'heure avec Timothée. Connaître, adopter pour sa propre vie et exposer. Ça, c'est une première chose. Mais ça ne s'arrête pas là. Par exemple, en 1 Timothée 3:10, à propos d'un ministère de diacre, il est dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Est-ce qu'on prend n'importe qui pour n'importe quoi ? Non. On ne va pas mettre quelqu'un dans une responsabilité comme ça, à la légère. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. C'est important. Et on le voit à quel point c'est important dans notre gouvernement à nous, le fait d'être sans reproche, oui ou non. Et ça démolit tout. Parce que ça abîme la fonction ministérielle ensuite. On le retrouvera. En 2 Timothée 4:11, c'est intéressant, 2 Timothée 4:11, Paul dit, Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Paul est en train de demander de l'aide pour son ministère. Petite information, surtout pour les jeunes. Chaque ministre a des bras droits. Ça s'appelle des secrétaires d'État. Donc chaque ministre a des secrétaires d'État pour coacher, on va dire, une partie encore plus précise du ministère dont il s'occupe. Et puis chaque secrétaire d'État lui-même, un cabinet, chef de cabinet, directeur de cabinet et d'État de conseiller. Alors on n'est pas forcément le ministre du haut, mais on est dans le ministère, on est associé au ministère et on gravit les échelons et on commence par être simplement conseiller. Et c'est la position de Marc ici. Et Paul dit, prends-le avec moi. Alors c'est intéressant parce que peut-être 10 ans avant, ce même Marc, Paul n'avait plus voulu travailler avec lui. À un moment, il travaillait, il avait fait défection, il les avait un peu abandonnés, et quand il a s'agi de le reprendre dans son équipe, il a dit « Non, moi je ne le prends pas dans mon équipe, c'est hors de question. » Et on voit que Dieu a travaillé dans la vie de Marc. Et plusieurs années plus tard, nous avons ce beau verset en il dit, prends Marc et amène-le parce qu'il m'est utile dans le ministère. Alors, on peut à un moment s'égarer, on peut à un moment être moins bon ministre, moins bon conseiller pour le Seigneur. Mais il travaille dans notre vie et il veut nous faire revenir. Et ça, c'est formidable. On dit, bah, toi, tu as été mauvais, c'est fini pour toi, tu ne seras plus jamais là. Non, le Seigneur dit, pour l'instant non, mais quand tu redeviens un bon ministre, il y a du travail pour toi dans l'œuvre du Seigneur. Alors j'encourage en particulier les jeunes à commencer, mais les moins jeunes aussi. Dans toutes les petites composantes de l'Église, de la vie d'Église, de la feuille de route que Dieu nous donne, on peut être un conseiller, on peut aider, on peut participer. Après, il y a des mises en garde. En Colossiens 4, verset 17, nous avons quelqu'un qui est nommé d'ailleurs, qui s'appelle Archip. Et ça, ça doit nous interpeller parce que nous sommes tous engagés dans l'équipe ministérielle de Christ. À différents échelons. Mais le verset nous dit, dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Manifestement, ce gars-là, il avait reçu un travail particulier, un ministère. Et il semble que Paul a détecté qu'il est en train de le faire de façon négligée ou incorrecte. En tout cas, il y a un problème avec le travail qu'il est en train de faire pour Jésus-Christ. Peut-être un peu de paresse ou de distraction ou tout d'un coup il a mis ses propres idées personnelles plutôt que la feuille de route du Seigneur. On ne sait pas. Il dit, prends garde au ministère que tu as reçu, hein, que ce soit présent à ton esprit, ne le néglige pas, remplis-le bien. Qu'en est-il de nous? Est-ce que nous prenons garde au ministère que le Seigneur nous donne? Vous dites, ben moi j'en ai pas. Ah ben c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème parce que c'est pas possible. Dans le corps de Christ, chaque membre a une place pour participer au fonctionnement. Il n'y a pas un membre dont on puisse dire, celui-là c'est vraiment un membre, on se demande pourquoi le Seigneur l'a mis. Il n'a aucune utilité, aucun rôle, aucune fonction. Nous pouvons même le couper, le corps n'en souffrira pas. Non. Et le Saint-Esprit fait à chacun un don pour pouvoir remplir un ministère. Ensuite, peut-être il arrive qu'on puisse remplir ce ministère par nos propres forces et nous épuiser. Et voilà un conseil judicieux en 1 Pierre 4, verset 11. À ne pas oublier. Puisque on pourrait faire un burn-out peut-être. En 1 Pierre 4, verset 11, il dit, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. C'est par la force que Dieu communique que je vais pouvoir avoir l'énergie d'être ministre de Jésus-Christ, pas par mes propres forces. Et combien il est important pour chaque chrétien qui est engagé dans ce ministère de la Nouvelle Alliance d'aller puiser dans la force que Dieu communique. Et quand nous cessons de le faire, le résultat, peut-être pas tout de suite, mais c'est jamais un bon résultat. Et puis, le petit clin d'œil en 2 Corinthiens 6, 3, qui nous avertit, qui nous, c'est solennel, hein, ça nous rappelle vraiment l'importance d'être droit, de veiller sur nous-mêmes. Parce qu'en tant que chrétien, on ne nous loupera pas. En 2 Corinthiens 6, verset 3, Paul dit à propos de lui-même, « Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. » Dans la campagne, on l'a vécu. Hein. « Nous ne donnons aucun sujet de scandale. » Oh là, les scandales, il y en a eu. Pour que le ministère ne soit pas un sujet de blâme. Eh bien, en tant que chrétien, combien c'est important de dire, « Je suis ministre de Jésus-Christ. » Et je dois tout spécialement veiller à être irréprochable. J'aimerais terminer simplement en mentionnant ce que moi j'ai envie d'appeler le ministère par excellence, auquel chacun est invité à prendre part. Et c'est d'ailleurs l'un des deux ministères dans la Bible qui est mentionné. On a le ministère des affaires sociales, etc. Nous, et là, c'est en 2 Corinthiens 5, verset 8. Alors, un premier ministère, c'est le ministère de la parole. Il est présenté en acte. Et le deuxième ministère, en 2 Corinthiens 5, 18. Et c'est un ministère par excellence parce que chacun est invité à y prendre part. C'est vraiment un ministère où tout le monde et dans le cabinet ministériel. C'est le ministère de la réconciliation. Qu'est-ce que c'est que ça ? En 2 Corinthiens 5, au verset 18, il dit « Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. » Ah, il nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est quoi ? Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est le ministère par excellence, le ministère de la réconciliation auquel tous nous sommes conviés. Il nous a donné le ministère de la réconciliation pour que nous puissions dire autour de nous aux gens: je t'en supplie, toi aussi, sois réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Tous, nous sommes engagés à témoigner de Jésus-Christ, à témoigner de l'Évangile, parce que les gens autour de nous sont perdus et que Dieu veut les sauver et il les supplie. Il les supplie par quel moyen ? Par notre moyen. Comme si Dieu, exhorté par notre moyen, nous vous supplions, soyez réconcilié avec Dieu. Est-ce que je parle de Jésus autour de moi ? Est-ce que j'insiste ? Est-ce que je suis ce ministre de la réconciliation avec Dieu ? Paul le faisait, et ce sera notre conclusion, en Actes 20, 24, qui, c'est le verset de conclusion, parce que cela nous montre combien Paul, dans sa vie, avait mis d'abord sa fonction ministérielle en priorité. En Actes 20, verset 24, il dit « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. » Ah, moi, ce qui est précieux, c'est mon petit temps à moi. Moi, ce qui est précieux, c'est que ma vie soit confortable, que je puisse m'épanouir dans ce que j'ai envie. Bon, en fait, c'est mon propre gouvernement. Je fais mon gouvernement pour me servir et je suis ministre, non pas de Christ, mais ministre de moi-même. Et Paul dit, moi, je ne suis pas un ministre de moi-même. Mais je suis devenu ministre de Jésus-Christ. Vous savez, lorsqu'on n'est pas réconcilié avec Dieu, on est ministre de soi-même. Hein, le grand moi. Et Paul dit, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Ça, c'est formidable, parce qu'on peut parcourir cette course du ministère de Christ avec joie. Il dit, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Je pose la question, quel ministère avez-vous reçu de la part de Jésus ? Est-ce que ce qui est fort dans ma vie, c'est pas d'être ministre pour moi-même, mais d'être ministre de Jésus-Christ, de ne pas faire un cas de ma vie comme si c'était la chose la plus précieuse, ma vie, mon existence. Tant que je serai comme ça, je serai au mauvais endroit et j'accomplirai pas ma course avec joie. Je ne peux pas. Par contre, si je prends conscience que, en acceptant Jésus-Christ dans ma vie, en croyant en lui, en me mettant dans son équipe, je suis enrôlé dans son équipe ministérielle, il me confie des choses, alors là, ma vie prend un tout autre sens. Je ne suis plus ministre de moi-même, mais ministre de Christ et alors, je peux accomplir ma course avec joie et veiller. Paul dit, pourvu que j'accomplisse le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Ça doit résonner dans notre tête. Pourvu que j'accomplisse le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Qu'en est-il ? il est important que nous fassions le point. Quel ministère j'ai reçu ? Est-ce que je vis ma vie ? Avec vraiment, en me disant, moi ce qui compte, c'est vraiment pourvu que j'accomplisse le ministère que j'ai reçu du Seigneur. C'est ça qui compte. Prions. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette occasion des élections qui nous amène à réfléchir à nous-mêmes vis-à-vis de toi, parce que tu es le ministre de la Nouvelle Alliance et tu nous engages à ta suite. Nous voulons ce matin en prendre vraiment conscience pour que notre identité de ministre de Christ puisse vraiment résonner en nous de façon prioritaire, de façon primordiale. Aide chacun d'entre nous à découvrir peut-être son ministère, ses ministères, au travers peut-être de différentes facettes que nous avons pu mentionner ce matin ou d'autres. Et puis, à veiller à bien remplir notre ministère. Tu l'as rappelé à Archip de bien remplir son ministère. Et tu veux nous donner la même exhortation ce matin de veiller à bien le remplir plutôt que de le négliger. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous engages dans une aventure formidable lorsqu'on le vit vraiment dans cet esprit-là. Diversité de dons, mais un seul esprit. Diversité de ministères, mais un seul Seigneur. Combien cela est formidable, Seigneur, quand nous prenons notre place dans ce projet que tu as. Nous voulons, Seigneur, te prier pour que d'autres puissent rejoindre ton équipe par cette réconciliation avec toi, en devenant ton enfant et en devenant à leur tour un ministre de Christ. Seigneur, merci parce que ta feuille de route pour notre vie, pour notre existence, est une feuille de route parfaite, fondée, sage, pertinente. Nous avons aujourd'hui, Seigneur, 11 feuilles de route avec 11 candidats. Et combien nous sommes bien perdus là-dedans. Mais la feuille de route pour notre âme, pour notre vie, pour notre existence, pour notre cœur, mais pour notre position aussi dans ce monde, pour nos actions, pour notre mode de pensée, pour notre mode de vie, ta feuille de route, Seigneur. C'est la meilleure feuille de route et nous voulons te remercier pour cela. Que nous puissions nous engager à la faire connaître autour de nous. Nous avons vu tous les efforts déployés par les candidats et par leurs supporters. Et nous, Seigneur, est-ce que nous faisons campagne pour ta feuille de route autour de nous? Tu nous as donné ce ministère de la réconciliation, Seigneur. Ne te demandons pas pardon parce que souvent nous le mettons de côté, nous le négligeons, nous l'oublions. Nous te soutenons du bout des lèvres, mais nous ne faisons pas campagne vraiment pour toi. Alors, aide-nous, Seigneur, à bien remplir ce ministère également. Nous ne voulons pas manquer, Seigneur, de prier aujourd'hui pour notre pays et pour ses élections. Toutes choses sont dans ta main. Que tu puisses éclairer chacun de nos cœurs aussi. Pour que le vote que nous ferons soit un vote sous ton regard. Et c'est ça qui compte. Non pas un vote selon nos motivations, nos craintes ou nos aspirations, mais un vote que nous soumettons vraiment à ton regard, à toi, et que nous puissions voter, Seigneur, avec cette paix que tu mets dans nos cœurs. Et combien cela est important. Tu ne veux pas, Seigneur, que nous ayons d'un côté notre vie avec toi, puis de l'autre côté une vie de citoyen indépendant. Alors que nous puissions être sous ton regard. Et nous voulons te confier notre pays, et nous voulons te confier le futur président qui sera élu, afin que tu l'utilises, il soit dans tes mains un instrument pour le bien de la population. Ainsi qu'au-delà de la France, dans le monde. Au nom de Jésus. Amen.